affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Alors que la France vient de vivre la rentrée des classes, notre émission va être consacrée à cette véritable passion française qu'est l'école. En effet, nous Français sommes tous peu ou prou amoureux de l'école. Mais comme tout amour, il prend des formes ambivalentes, tissées d'exaspération et d'admiration, de profonds regrets et de folles espérances. Un amour parfois contrarié aussi, puisque, comme on le sait, depuis une trentaine d'années, le terme d'école est souvent associé au mot de crise. Il y a, c'est indéniable, une crise de l'école. Mais il n'y a pas encore de résignation, car l'école et son sort suscitent toujours autant de débats et aussi d'initiatives portées par les professeurs, bien sûr, mais aussi par des parents. C'est à ces initiatives que nous allons consacrer notre émission. Nous avons en effet la joie d'accueillir dans notre studio Anne Coffinier, qui depuis plus de 15 ans s'est engagée pour faire émerger des initiatives éducatives novatrices et qui va poursuivre cette belle aventure au sein de la Fondation Kairos, une nouvelle fondation abritée par l'Institut de France. Madame, bonjour. Merci bonjour. D'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes ancienne élève de l'ENA et également de l'ENS et donc fondatrice de cette nouvelle fondation Kairos. Alors bien évidemment, le nom de Kairos étant un petit peu nébuleux, je voudrais que vous nous expliquiez d'une part pourquoi vous l'avez choisi et puis tout simplement l'objet de la fondation.
Merci beaucoup de me recevoir à votre micro, Christophe Blanc. Donc, cette fondation Kairos est une fondation dont l'objectif est de susciter une sorte de renouveau éducatif, en tout cas un perfectionnement éducatif, puisque en éducation, comme dans bien d'autres domaines, il s'agit sans arrêt de remettre le métier sous l'ouvrage et sans arrêt donc d'essayer de faire mieux, puisque c'est un processus finalement qui concerne tout le monde et tout au long de la vie. Alors la Fondation Kairos, d'où tire-t-elle son nom ? C'est un concept grec qui signifie le moment favorable, le moment qui permet que les choses se précipitent et que le destin finalement s'accomplisse et se réalise. C'est donc le moment où ce qui n'était pas encore advient. Et donc vous voyez une certaine ambition à travers ce concept. La folle espérance, peut-être, pour renouer avec votre introduction, d'arriver à changer les choses et d'arriver à ce que notre école française, mais aussi d'autres systèmes éducatifs, puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, et donc quel est l'objectif de cette fondation Kairos pour l'innovation éducative ? C'est tout simplement de concourir à ce que nous développions des solutions éducatives, des écoles, des pédagogies, toutes sortes d'initiatives qui peuvent être aussi parascolaires ou périscolaires ou simplement de l'ordre d'une méthode pédagogique, d'un manuel, d'un logiciel. Il y a toutes sortes de champs dans lesquels on peut innover en matière éducative pour arriver à faire quoi ? Eh bien, pour arriver à transmettre notre civilisation et qui, aujourd'hui, semble avoir du mal à être transmise. C'est tout le paradoxe. Nous avons toutes sortes de moyens de communication, toutes sortes de vecteurs de transmission, des réseaux sociaux, toutes sortes de facilités, plus que jamais. Et au même moment, nous avons une sorte de crise absolue de la transmission. Et ce qui faisait notre commun, notre lien, notre culture partagée, eh bien, est en train de s'évanouir. Et nous devenons des sortes de continents étrangers les uns pour les autres. Il y a toutes sortes de fractures générationnelles, culturelles, qui se développent en France. Tout ça pour que finalement, nous ayons un vrai problème bien de communication de notre être, de solidarité et de communauté d'existence. Donc il y a un enjeu majeur qui est d'innover pour pouvoir transmettre ce qui nous unit, ce qui nous féconde aussi, et aussi eh bien, de transmettre pour pouvoir demain innover dans une perspective tout à fait arendtienne, puisque Hannah Arendt disait que l'école était là pour transmettre, et certainement pas pour innover en elle-même ou inventer des choses tout à fait modernes ou à la mode, mais elle n'était pas là pour former des êtres qui allaient répéter le passé, Elle était là pour former des êtres en transmettant quelque chose d'extrêmement classique et multimillénaire, des êtres qui allaient pouvoir eux-mêmes innover. Donc la devise de la Fondation Kairos, c'est donc ce double mouvement, innover pour transmettre, transmettre pour innover.
On aurait pu la traduire par la célèbre phrase de Cocteau, « La tradition est une statue qui marche ».
Tout à fait.
Toutefois, en vous écoutant, j'étais un petit peu surpris. Ma question va être légèrement provocatrice, mais de façon à ce que vous puissiez y répondre. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'école aujourd'hui, assez rapidement, on en vient à parler de notions explicites ou non de vivre ensemble. Est-ce que c'est réellement le rôle de l'école de promouvoir le vivre ensemble ?
Le rôle de l'école, avant tout, c'est d'apprendre à réfléchir et à penser. Et avant tout, l'école est un mouvement qui va vers chaque personne, chaque écolier. Donc, c'est un mouvement entre le professeur, qui lui-même transmet, passe, c'est une sorte de passeur de culture, vers chaque être individuellement, avant tout. C'est avant tout une histoire personnelle, interpersonnelle. Mais dans cette dimension de la transmission, il doit aussi transmettre ce qui fait notre identité. Et dans notre identité, il y a évidemment ce qui appartient en propre à un pays, ce qui est en propre à une ère civilisationnelle ou culturelle comme l'Europe ou l'Occident, et ce qui appartient aussi à l'humanité, qui nous unit tous au-delà des différences de race, de religion, de pays, et de ce qu'on veut. Et donc, c'est avant tout une aventure personnelle, et le but numéro un de l'école, c'est évidemment d'apprendre à réfléchir. Mais dans cette réflexion, il y a pas uniquement la recherche de soi comme une sorte de monade absolue, mais il y a la recherche aussi du bien commun. Il y a la recherche de ce qui nous unit, de ce qui nous fait nous sentir partie de quelque chose de plus grand et qui nous élève, quelque chose qu'on reçoit aussi. Il y a cette fameuse formule, alors c'est assez controversé sur son origine, mais cette formule qui dit que nous sommes des nains hissés sur des épaules de géants, je crois que c'est quand même avant tout comme ça qu'on doit se sentir lorsqu'on enseigne. On doit se sentir des nains, puisqu'on n'est quand même pas grand-chose individuellement, juchés sur des épaules de géants, pour autant qu'on s'intéresse aux géants. Ça serait malheureux de faire comme si on n'avait pas des siècles de civilisation et prétendre tout tirer de soi-même ou bien d'un avenir non existant, alors qu'on a une chance extraordinaire d'être dans une civilisation extrêmement brillante, avec à minima trois grandes sources que sont Rome, Athènes et Jérusalem. Et donc ça serait malheureux de ne pas tirer de ce terreau on ne peut plus riche, eh bien la substance qui va nous permettre d'exceller, d'innover et de relever les défis propres à notre temps. Ce qui caractérise, si vous voulez, notre approche à la Fondation Kairos, c'est quelque chose d'assez nouveau, me semble-t-il, et malheureusement, c'est que nous voulons essayer de sortir de cette opposition très stérile entre ceux qui disent il faut avant tout transmettre le passé est le seul lieu qui ne serait pas ensauvagé, pour reprendre un mot à la mode, et ça serait le seul lieu dans lequel il y a une sorte de vivre ensemble. Le passé serait une sorte de locus amoenus dans lequel nous serions heureux de nous retrouver, de nous réfugier. Donc il y a des écoles qui sont dans cette logique-là, qui est sympathique, mais qui ne respecte pas la réalité des enfants, qui est qu'ils vont devoir vivre dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Et puis il y a d'autres écoles qui sont tout à fait fanatiques du progrès, toujours à la pointe de la moindre innovation, qui veulent créer des citoyens du monde, hors sol de préférence. Et ces écoles-là ne se préoccupent pas du tout du fait que nous sommes les héritiers d'une culture éblouissante qui n'a pas du tout dit son dernier mot. Et notre objectif à la Fondation Kairos, c'est de réunir ces deux approches, c'est-à-dire à la fois de prendre au sérieux notre héritage, d'essayer de nouveau de nous en rendre dignes en prenant la peine de l'hériter, et en même temps de prendre à bras le corps la modernité en essayant de récupérer, de comprendre, d'assimiler, d'utiliser tout ce qui est utilisable dans la modernité, c'est-à-dire à peu près tout, sans en avoir peur, pour rester humain, affirmer l'humanité d'une manière qui soit responsable et j'ai envie de dire jubilatoire, malgré les difficultés propres à notre temps qui sont immenses. Qu'on considère, de tous les côtés, on ne voit que des difficultés, c'est quasiment apocalyptique actuellement. Et néanmoins, on n'a pas le droit de présenter le contexte actuel et l'avenir sous un jour trop sombre, dans la mesure où il s'agit de donner envie à des enfants de vivre, de mettre, leur propre intelligence et donner leur propre énergie à la société d'aujourd'hui et de demain, et d'essayer d'avoir une contribution positive au monde qui est le nôtre. Donc vous voyez, il faut à la fois un grand réalisme et décrire les problèmes tels qu'ils sont, Beaucoup d'humilité et recevoir le passé et reconnaître que c'est le passé qui nous rend capable de quelque chose aujourd'hui. Et en même temps, une sorte de, comment dire, de, d'avidité d'être et de désir de poser sa marque et de contribuer à ce que le monde de demain soit meilleur. Donc on essaie de réunir des choses qui aujourd'hui sont malheureusement tout à fait opposées. Autre opposition stérile qu'on va essayer de dépasser. Souvent, et malheureusement c'est un peu un défaut des journalistes, on vous demande si vous êtes dans le camp des anciens ou des modernes, comme s'il fallait encore se situer sur cette vieille querelle. On vous demande si vous êtes pour la transmission ou pour la pédagogie. Alors c'est quand même assez amusant, puisque évidemment que les pédagogies sans contenu et sans culture et sans savoirs fondamentaux, on se demande de quoi on va être pédagogue si on ne transmet rien du tout. Et inversement, quelqu'un qui prétendrait transmettre en disant « Mes chers amis, nous n'avons besoin d'aucune pédagogie, d'aucun savoir-faire, d'aucune méthode, d'aucun charisme. Après tout, le savoir est si séduisant qu'il se transmettra tout seul. » Ce n'est pas non plus sérieux. Donc on voit bien que vous voyez, ce type d'opposition dans laquelle on veut nous enfermer sont stériles et stérilisantes. Donc il est temps d'oser dire « Oui, nous avons besoin de savoir-faire pédagogique, évidemment. Mais nous avons aussi terriblement besoin de nous souvenir que nous avons le devoir et l'urgence de transmettre ce qui fait le cœur de notre civilisation et non pas des textes secondaires, des choses qui vont se démoder dans la seconde. Vous voyez, vous prenez juste l'exemple de la littérature qu'on va enseigner au collège, par exemple. Est-ce qu'on va enseigner et faire lire des ouvrages qui sont issus de la littérature jeunesse traduite des États-Unis ou de la Grande-Bretagne et qui, pour la plupart, sera tout à fait inconnu dans 10 ans? Ou est-ce qu'on va se dire, puisque nous sommes une institution, puisque nous ne sommes pas certains de notre propre goût, nous allons d'abord transmettre ce qui nous unit et ce qui ne passe pas, ce qui est éternel. C'est bien le lieu ici de parler des immortels et des éternels, hein, en quelque sorte. Nous allons d'abord transmettre ce qui est magnifique, ce qui a enthousiasmé le cœur de générations d'êtres très différents, au-delà des cultures, au-delà des races, au-delà des religions. Je ne vois pas comment on ne peut ne pas transmettre Aristote, Shakespeare, Dante. Comment on peut dire ces choses-là sont trop compliquées, elles sont trop élitistes, un mot absurde. On va plutôt transmettre, je ne sais pas moi, Christian Bobin. Il y a un moment où, quelle que soit la qualité ou l'intérêt de Christian Bobin, que je connais peu, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire, on est là, on est une institution, on doit transmettre le cœur de notre civilisation. Et donner cet amour fou pour que, et cette curiosité, cette envie de travailler, de lire, pour que les jeunes, par eux-mêmes, puissent ensuite s'intéresser à différents domaines et bien sûr à la littérature de notre époque.
Alors puisqu'on en est à passer par-dessus les oppositions stériles, ne faut-il pas dire un mot aussi de cette opposition entre public et privé qui structure inévitablement tout débat sur l'école en France?
Alors c'est une question excellente. Ce qui est bien certain, c'est qu'aujourd'hui, les parents et même les enfants ne choisissent plus les écoles au regard de leur statut public ou privé. Aujourd'hui, c'est une démarche incroyablement pragmatique, en fonction du lieu de résidence, en fonction des besoins pédagogiques, éducatifs, psychologiques propres à chaque enfant, parfois même de sa position dans la fratrie, de son désir d'être dans une petite structure, une grosse structure. Bon, toutes ces réalités-là font que les parents vont choisir d'une manière qu'on pourrait appeler d'assez consumériste. Ils vont passer du privé au public, de l'internat à l'externat, du privé hors contrat ou sous contrat. Donc toutes ces réalités, avant tout statutaires, n'intéressent plus personne, premièrement. Et je crois que ces débats, cette querelle scolaire, sont complètement, en réalité, artificiels. Ils ne sont maintenus artificiellement en vie que par des gens qui ont intérêt et qui en vivent à maintenir ce type d'opposition en vie. Donc ça, je pense que c'est la première des choses à dire. Ce qui va caractériser une école, ce n'est pas son statut, c'est de savoir si elle a une taille humaine, si elle va pouvoir choisir librement ses équipes, ses professeurs, ses méthodes, ses diplômes, cette perspective éducative, la manière dont elle va créer du lien ou pas avec ses anciens, la manière dont elle va se dédouaner d'habitudes qui, à mon avis, ont fait leur temps, comme celle de mettre tous les gens d'un même âge dans une même classe, de les faire avancer par groupes qui ont tous la même taille, quel que soit l'âge, quelle que soit la matière. Vous voyez, on oublie à quel point l'école aujourd'hui est tributaire d'une conception 19e-iste, directement issue de considérations de gestion de masse et de considérations assez proches des logiques de caserne plus que des logiques d'éducation. Quand on prend un petit peu de champ et on regarde comment se passait, par exemple, l'éducation au Moyen-Âge, la notion de lieu, des locaux, n'avait aucune importance. D'ailleurs, on enseignait souvent dans la rue ou dans des tavernes. La notion de groupe classe, très très longtemps, jusque, on peut dire, dans les années 1880, n'avait aucune importance. Et de toute manière, il y avait des enfants de tous les âges dans chaque classe. Et on sautait de classe. Et en fait, c'était la réalité du niveau de l'enfant qui faisait qu'il passait d'une classe à l'autre. Donc aujourd'hui, on est arrivé dans une approche avant tout égalitariste et extrêmement normative. Ce qui fait que beaucoup d'enfants, soit se sentent perdus parce que ce n'est pas leur maturité ou leur niveau, soit inversement se sentent écrasés ou désespérés parce qu'ils s'ennuient et qu'ils aspirent à autre chose. Et bien sûr, il faut rajouter à cela une autre chose absurde qu'on doit à la loi Abi de 1975, c'est le collège unique, qui est une négation absolue des talents. Pourquoi décréter que tous les enfants, alors qu'ils sont déjà assez mûrs, vont devoir faire la même chose dans le même contexte, tous ensemble, en niant littéralement leur aspiration et la différence aussi de leurs aptitudes et de leur maturité? C'est complètement absurde. Donc pour répondre à votre question, cette distinction de public-privé, elle est parfaitement obsolète. Tout le monde le sait. Et j'ai envie de dire, en guise de boutade, que ceux qui mettent le plus en avant le fait qu'il est naturellement éthique, moral, supérieur, nécessaire, indispensable, obligatoire de mettre son enfant dans le public, ce sont les premiers à mettre leur enfant dans le privé. Donc je crois qu'il est temps de se souvenir que ce qui compte, le vrai trésor, c'est le professeur. Est-ce qu'on a envie de confier son enfant à tel professeur, à telle communauté de professeurs, pour mettre en place telle ou telle approche de l'éducation, ou pas ? Que l'école soit publique ou privée, c'est devenu une réalité administrative complètement anachronique par rapport à la réalité de l'évolution de la donnée éducative d'aujourd'hui.
Alors, puisque nous parlions des initiatives, l'une des missions de la Fondation Kairos est de soutenir les écoles dites libres, c'est-à-dire les écoles privées hors contrat. Voilà. Mais j'ai jamais compris, de toute façon, dès lors qu'on crée une école, si ce n'est pas l'État qui la crée, elle est nécessairement une école hors contrat. C'est ça ?
Tout à fait. Alors, en fait, on a tout simplement repris le terme d'école libre. Pourquoi ? Parce qu'avant, il y avait les écoles variées, hein, les écoles paroissiales, les écoles de congrégation, toutes sortes d'écoles, les écoles d'instituteurs. Bon. Et puis, il y avait l'école communale. Et puis ensuite, il y avait des écoles qui étaient plus au niveau national et qui étaient créées. Et puis ensuite, il y a eu la loi Debré en 1959 qui a créé un système d'écoles privées sous contrat avec l'État. La plupart des écoles privées aujourd'hui sont sous contrat. Et donc, ont une réalité qui est très liée à l'éducation nationale. Les professeurs sont des agents publics. Leur supérieur hiérarchique, c'est l'inspecteur. Ils sont payés par l'État. Ils sont formés par l'État. Tout, en fait, dépend de l'éducation nationale. Et au niveau des programmes, sont les programmes d'État. Les diplômes sont les diplômes d'État. Les formations sont les formations d'État. Le volume horaire par matière, c'est celui qui est fixé par l'État. Bon. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'enseignement privé sous contrat a rarement une culture de la liberté. En tout cas, les professeurs peuvent avoir cette culture, mais j'ai envie de dire, les professeurs de l'éducation nationale, individuellement, dans leur classe, l'ont tout autant et parfois plus. Donc, est-ce qu'il faut laisser ce terme d'école libre à l'enseignement privé sous contrat ? Je ne crois pas. Je crois que le terme est devenu disponible. Et donc, les écoles hors contrat, très naturellement, reprennent ce terme d'école libre.
Alors, il faut peut-être qu'on les décrive, ces fameuses écoles hors contrat, parce qu'elles suscitent beaucoup de fantasmes, selon les milieux, les préoccupations, les craintes de chacun.
Tant mieux, le fantasme est le début de l'intérêt.
Certains vont avoir peur d'écoles intégristes catholiques, confessionnelles, d'autres de la montée d'écoles islamiques, d'autres enfin que ce soit des ghettos sociaux. Vous avez tenu récemment une conférence de presse sous l'égide de créer son école, qui fait partie de l'écosystème de la Fondation Kairos, puisqu'il s'agit aussi d'aider des, ces initiatives. Et du coup, j'imagine que vous avez des statistiques à nous donner sur, d'une part, celles qui existent, mais aussi celles qui se créent.
Alors, c'est beaucoup de questions à la fois. Disons, la première chose, c'est que, effectivement, en France, lorsque vous créez une école, même si vous êtes une commune, hein, voyez, vous êtes une commune rurale, vous créez une école, elle va se trouver école privée hors contrat. Donc, c'est la voie naturelle de la création. Donc, appelons ça école libre. C'est-à-dire, ce n'est pas une école qui est créée par l'État. À partir du moment où vous créez une école, eh bien, vous allez avoir un certain nombre de responsabilités et de libertés. Vous allez être responsable de choisir votre équipe enseignante, vos programmes, vos méthodes, vos volumes horaires, votre approche éducative, vos diplômes. En fait, vous êtes responsable de tout ça. Et évidemment, vous êtes aussi comptable et vous êtes inspecté de manière très stricte par l'inspection de l'éducation nationale qui vient regarder si vous n'êtes pas une secte, si vous êtes responsable et que vous faites en sorte qu'il y ait une véritable progression des apprentissages des élèves qui vous sont confiés, si vous faites attention en termes de protection des mineurs, si vous respectez le socle commun de connaissances, de compétences et de culture qui est défini par la loi, et que vous faites en sorte qu'à 16 ans, les élèves aient le même niveau que ceux qu'ils ont dans le public. Donc tout ça, ce sont des inspections qui sont très, très strictes, et si l'État inspecte comme la loi le permet, il n'y a aucune raison qu'il y ait de dérive particulière. Alors, pourquoi y a-t-il un certain nombre de peurs ? La liberté a toujours fait peur. La liberté de tout fait peur. C'est le propre de la liberté. Et le propre de la liberté, naturellement, c'est qu'il y a toujours des gens qui en usent mal. Sinon, ce ne sera pas la liberté. Donc, il faut des contrôles. Pour moi, le meilleur des approches, c'est de laisser libres les gens, et par contre, d'exercer des contrôles et de sanctionner quand il y a un mauvais usage de la liberté. Et pour ça, il faut vraiment sanctionner. Et pas faire semblant de sanctionner, ou d'être pris dans des procès infinis, comme c'est parfois le cas. Alors, qu'est-ce qui peut faire peur dans ces écoles ? D'abord, il y a toujours la question de une nouvelle école secrète, est-ce que nos enfants vont pas essuyer les plâtres ? Est-ce qu'elle va pas un petit peu chercher ses marques les premiers temps ? J'ai envie de dire oui. Évidemment, elle va chercher un peu ses marques les premiers temps. Mais c'est bien la même chose lorsque votre enfant a un jeune professeur tout juste sorti de formation, qui n'a jamais enseigné qui que ce soit, et pas de chance pour vous, votre enfant a ce professeur qui n'a aucune expérience. Vous pouvez dans le public ou dans le privé, c'est la même réalité. Donc, effectivement, au début, quand une école se crée, elle peut avoir un petit peu quelques tâtonnements. Mais l'aspect positif de cette chose-là, c'est qu'en général, quand une école se crée, elle diffuse une sorte d'esprit de l'innovation, de l'initiative et de l'aventure auxquels les élèves sont très sensibles. Les élèves sentent qu'il se passe quelque chose, ils sentent qu'il y a des adultes qui se sont mis ensemble pour faire quelque chose de compliqué, qui ne rapporte aucun argent, et qui est une véritable aventure humaine dans laquelle ils donnent beaucoup d'énergie, et c'est enthousiasmant. Donc, j'ai envie de dire qu'en phase de création, l'enthousiasme propre au temps fondateur compense le côté un petit peu amateur, forcément, des deux premières années de création d'une école. Ça, c'est le premier point. Après, certains ont peur que des pédagogies mal équilibrées ou manquant de, j'ai envie de dire, de prudence soient mises en œuvre. Alors, les pédagogies sont objet de toute manière de controverses. Certains considèrent que la pédagogie Montessori, dans la mesure où elle réserve une part à l'abstraction assez tardive, n'est pas forcément très, très favorable au développement de la capacité d'abstraction des enfants, ou bien qu'elle les maintient dans une logique relativement asociale. Donc même les pédagogies qui se développent énormément dans le monde entier et dans le contexte aussi sous contrat peuvent être sujettes à critique. Donc évidemment, c'est pas un sujet consensuel de savoir comment on peut élever un enfant. Je pense que vous mettez deux Français ensemble, ils ne seront pas d'accord, quels qu'ils soient. Donc,
oui, la preuve, certainement, même entre les créateurs.
Entre les créateurs, d'ailleurs. D'école, bien sûr.
Si je regarde, je vois dans le tableau qui figure dans le dossier de presse, pédagogie, il y a classique, sportif, international, bilingue ou trilingue, donc là, c'est axé sur les langues, international, démocratique, Montessori.
Régional, parfois.
Écologique, régional, quoi d'autre ? Steiner, Steiner-Waldorf, est-ce que j'en oublie ?
Oui, alors ça, c'est des catégories qu'on a utilisées pour faire nos statistiques. On pourrait même descendre encore de manière plus fine, bien sûr, dans ce contexte-là.
Éco-citoyenne.
Oui, c'est un petit peu comme écologique. Et encore, il y a des tendances qui sont en train de se développer actuellement, qui sont qui apparaissent peu dans les statistiques, mais qui montent. Voilà. Donc, par exemple, avec cette crise de la pandémie, il y a toute une réflexion qui vient des pays scandinaves sur l'opportunité de faire école dehors la plupart du temps, au moins pour les petites classes. Ce qu'on appelle l'école des bois, l'école des forêts. Vous savez que dans les pays scandinaves, on installe des crèches et des maternelles presque intégralement dehors. Donc ça, par exemple...
Spontanément, il me semblait que le climat ne s'y prêtait pas.
Mais... ben non, ça s'y prête. Ils mettent des enfants par une température négative dehors pour faire la sieste. C'est comme ça, c'est des traditions nordiques. Alors pour revenir sur ce qui pourrait faire peur dans les écoles indépendantes, donc il y a essuyer les plâtres. Après, il y a est-ce que des pédagogies sont suffisamment équilibrées? Alors il y a toujours des oseaux, si vous me permettez l'expression, pour imaginer des pédagogies un peu hulu-berlu. Mais l'intérêt de ce type de situation, c'est que, évidemment, les parents votent rapidement avec leurs pieds, et en général, au bout de quelques mois, l'école a fermé, et ça ne fonctionne pas. Et entre quelqu'un qui a une idée un peu bizarre, et puis le fait qu'il y ait des parents qui leur confient vraiment leur enfant, il y a quand même un pas. Ensuite, qu'est-ce qui peut faire peur ? Appelons un chat, il y a une véritable peur pour la création d'écoles musulmanes. Certains confondent école musulmane et école coranique. Donc, petit rappel, une école coranique, c'est pas une école selon une école qui transmet le socle commun de connaissances, les connaissances fondamentales. C'est une école religieuse, c'est une école qui transmet la connaissance du Coran. Comme il y a les écoles du dimanche pour les protestants, par exemple. Donc, ce n'est pas une école au sens scolaire du terme. Donc, ne parlons pas d'école coranique, il existe des écoles musulmanes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la loi française, le droit tel qu'il est, les décisions politiques successives font que les plus grosses écoles musulmanes sont privées sous contrat. Donc financées par l'État, par nos impôts, ce sont des écoles donc qui sont dans le contexte sous contrat. Et il y a des petites écoles hors contrat qui se développent, en général qui sont toutes petites et qui sont locales et qui correspondent à différentes motivations. Et notamment, dont certaines réagissent à la loi d'interdiction du port du voile dans le secondaire public. Donc voilà pour démythifier. Et ce qu'il faut aussi peut-être dire, c'est une réalité très simple aussi, mais c'est que les écoles sous contrat musulmanes sont fédérées par une fédération qui s'appelle la FNEM, Fédération Nationale d'Enseignement Musulman, qui est rattachée ouvertement à l'UOIF, donc qui s'apparente, c'est un secret pour personne, aux frères musulmans. Donc, lorsqu'on
craint... Vous voulez dire que celles hors contrat peuvent être finalement moins rigoristes que celles qui sont sous contrat.
Je ne sais pas si c'est le terme de rigoriste est très adapté en matière de frères musulmans, salafisme, etc. C'est des sujets complexes, mais ce que je sais, c'est que la peur classique, ce qui a été désigné plusieurs fois comme un problème, je pense notamment aux déclarations de Manuel Valls ou d'autres hommes politiques comme étant un problème, notamment au moment des attentats islamistes. Ce qui a été désigné comme étant un problème, c'est-à-dire la mouvance frériste, eh bien la mouvance frériste en France, à Pignon-sur-Rue, a ces écoles qui sont sous contrat. Donc je veux bien qu'on se concentre sur la peur que pourrait susciter la création de nouvelles écoles hors contrat, mais alors je veux dire, il faut quand même être un petit peu réaliste, les plus grosses écoles, celles qui sont les plus importantes et qui sont financées par nos impôts, ce sont des écoles fréristes. Ensuite, les écoles intégristes catholiques. Bon. Alors, il existe un certain nombre d'écoles, effectivement, qui sont ce qu'on appelle gérées par des congrégations, on appelle plus ça des congrégations, en tout cas des fraternités qui sont traditionnelles, donc qui pratiquent la messe selon l'ancienne forme du rite romain. Bon. Ça existe tout à fait, elles sont répertoriées, elles sont ouvertes, elles existent depuis assez longtemps. En général, ce sont des écoles qui sont excellentes du point de vue de la transmission de la culture classique, mais en général qui ne sont pas extrêmement adaptés à la modernité et qui ne préparent pas particulièrement les enfants à vivre dans le monde tel qu'il est. Alors, certaines personnes peuvent s'émouvoir de cette réalité, considérer que c'est une forme un peu d'approche, en quelque sorte, qui serait excessivement coupée du monde. C'est un point de vue et ça peut tout à fait s'entendre, mais en tout cas ces écoles existent et elles sont respectées par l'Éducation nationale qui fait un certain nombre de recommandations et qui a la responsabilité et de dire si ces écoles restent dans un cadre qui est acceptable et favorable pour les enfants ou bien si ces écoles marginalisent les enfants d'une manière qui paraît problématique pour leur future intégration. Et dans ce cas-là, c'est à l'inspection de réagir.
En tout cas, voilà. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une extrême diversité, puisqu'on a à la fois des écoles, allez, pour simplifier, on est toujours obligé de simplifier et utiliser des termes impropres, mais oui. des écoles plus avancées dans la modernité, ou la post-modernité même, parce que je pense que Montessori ou d'autres peuvent quand même ressortir d'une façon ou d'une autre de la post-modernité, et des écoles qui sont plutôt sur une vision plus traditionnelle, à la fois dans la pédagogie et le contenu de l'enseignement.
Alors, peut-être qu'on pourrait donner quelques éléments statistiques. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 80% des créations d'écoles, mais aussi 80%, pour faire simple, un petit peu moins, des écoles existantes qui sont non confessionnelles. Donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit, parce que ça ne correspond pas forcément à ce qu'on s'imagine. Aujourd'hui, 80% des créateurs d'écoles ont une motivation qui est directement pédagogique. C'est essentiel. Ensuite, parmi les créations donc, d'écoles à confessionnel, la tendance la plus forte, c'est le fait de créer des écoles Montessori. L'autre tendance très forte et souvent associée à la pédagogie Montessori, au moins pour les petites classes, c'est de créer des écoles qui ont une approche bilingue, trilingue ou internationale. C'est une tendance extrêmement forte. Alors, ça pose aussi des questions pour la langue française et pour la francophonie et pour le maintien d'un haut niveau de langue française. Ça mérite, à mon avis, interrogation également. Et on trouve aussi actuellement une sorte de développement d'écoles pour public spécifique. C'est-à-dire qu'on assiste à une évolution. Auparavant, les parents considéraient que les enfants devaient s'adapter à l'école, au moule de l'école unique, obligatoire, et considérait comme l'école, avec un grand E. Aujourd'hui, il y a une tendance de la société qui veut que c'est à l'école de s'adapter à l'enfant et que, d'une manière générale, c'est la singularité de l'enfant qui est intéressante et qu'il faut essayer de trouver quelque chose qui va lui correspondre. Alors, je vois que ça suscite votre perplexité.
Oui, je parlais de post-modernité il y a deux minutes, là, je crois qu'on est dedans.
Voilà, alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il faut trouver l'équilibre. Vous avez des enfants, par exemple, je pense à des enfants qui sont ce qu'on appelle enfants qui ont une dyslexie. Les enfants, il y a des véritables dyslexies, puis des fausses dyslexies liées à des mauvaises méthodes de lecture. Mais parlons des enfants qui ont une vraie dyslexie, ça existe. Les enfants qui ont une vraie dyslexie, ils peuvent très bien réussir dans une école classique, à condition qu'elle ait conscience des besoins réels des enfants dyslexiques et qu'elle en prenne compte. Il faut savoir que la plupart des professeurs ne savent pas repérer les difficultés d'apprentissage et n'en tiennent pas compte, voire font des choses qui sont vraiment désastreuses pour les enfants dyslexiques. Je vous donne un exemple. Beaucoup de professeurs refusent de donner le cours écrit, le support de cours, à la fin des cours, aux enfants dyslexiques, alors que pour eux, c'est indispensable. C'est tout simple. Voilà. Et donc, il y a un problème de méconnaissance, il y a un problème de formation des professeurs aux besoins de ces élèves. Donc, voilà quelques tendances qui sont à l'œuvre et qui sont quand même intéressantes. Et s'agissant si on parle que des écoles confessionnelles, il y a toujours quelques créations d'écoles juives. Là, cette année, il y en a 4. Ça correspond à des réalités, à mon avis, essentiellement liées à la dégradation des conditions d'études dans l'école publique en banlieue. Et donc, il y a des transfuges de l'école publique vers des écoles juives confessionnelles pour des questions avant tout de sécurité.
C'est-à-dire que c'est une conséquence des territoires perdus de la République.
Voilà. Et ensuite, il y a des écoles musulmanes qui se développent. C'est la conséquence du développement des musulmans en France, dans la population française, et, me semble-t-il aussi, dans un certain nombre de considérations, mais notamment de la loi sur le voile, qui fait qu'un certain nombre de musulmans se sentent désormais dans une logique à ne pas avoir le choix. C'est-à-dire qu'il faut bien scolariser les filles, ils ne veulent pas qu'elles ne portent pas le voile, et du coup, ils vont vers des créations d'écoles. Ou la déscolarisation, école à la maison, mais qui reste quand même extrêmement compliqué. Et ensuite, les protestants. Alors, les protestants, c'est pas inintéressant non plus. Le protestantisme classique ne crée pas d'école. Vous savez que dans les années 1905, les protestants, le réseau d'écoles protestantes avait décidé de se nationaliser, de s'intégrer au système public. Et il faut aussi savoir qu'à l'époque de la République opportuniste des années 1880, La plupart des penseurs et des acteurs et des ministres de l'éducation nationale, qu'on appelait le ministre de l'instruction publique à l'époque, étaient protestants. Donc il y a quand même une fusion dans l'esprit entre l'école publique et les protestants français. Mais c'est en train de s'effacer parce que le protestantisme évangélique est actif en France et que donc ils ont des communautés qui sont très dynamiques et ils
consomment. Pas mal de moyens aussi.
Ah, ça, je sais pas. Toujours est-il qu'ils investissent dans des écoles aussi et souvent des écoles bilingues. Ils ont tendance à être assez implantés dans les pays anglo-saxons. Voilà, donc on constate quelques écoles, mais peu, hein, trois écoles cette année évangéliques. Voilà pour les religions en question. Et pour les écoles catholiques, il y a 6 établissements cette année. On constate un véritable repli de la création d'écoles catholiques par rapport à avant. Donc ça mérite aussi interrogation.
Et c'est une dynamique qui devient moindre ou le nombre global diminue ?
C'est-à-dire que là, dans la création, il y a moins de création d'écoles catholiques, en tout cas cette année. Ça fait déjà plusieurs années qu'on commence à voir ça. À mon sens, la question est que les catholiques, si vous regardez, les écoles qui se créent en ce moment sont des écoles qui ont un modèle économique. Certes, c'est des écoles qui ont fixé des tarifs de frais de scolarité qui sont au-dessus des coûts de revient, donc qui permettent de tenir. Les écoles catholiques continuent est dans une logique très sociale, c'est-à-dire qu'elle propose des frais scolarité qui sont en dessous du coût de revient. Donc elles dépendent des dons. On est dans une logique de crise, on est dans une logique aussi d'étiolement du milieu qui peut soutenir les écoles catholiques. On est aussi dans un contexte actuellement d'incertitude avec la pandémie. Et je crois que ce modèle classique d'école sociale conçue pour reposer sur les dons n'est pas adapté à la circonstance présente. Et donc les écoles qui se développent aujourd'hui, ce sont des écoles qui sont sur un modèle réaliste au niveau économique, ce qui ne les empêche pas d'avoir une politique de bourse, une politique sociale par ailleurs.
Si je caricaturais, je dirais que c'est plus réaliste d'ouvrir une école Montessori au Vésinet qu'une école catholique à Fouarac.
Alors,
caricature, hein, mais pour vous permettre de réagir.
Oui, bien sûr. Par définition, s'il y a des gens qui sont prêts à payer une école Montessori, internationale, au Vésinet, il y a plein d'écoles, effectivement, dans le 78 qui se créent, parce qu'il y a une population pour ça. Mais il faut bien voir aussi que si vous regardez les implantations de création d'écoles cette année, vous en avez sur tout le territoire, et vous n'en avez pas plus dans les grosses villes que dans les petites, vous n'en avez pas plus dans les grandes métropoles que dans la ruralité, et ça, c'est nouveau. Parce qu'avant, c'était concentré sur les grandes villes. Ça veut dire qu'il y a des gens, notamment à la faveur de la crise de la pandémie, qui se disent, est-ce que vraiment je vais continuer à faire 40 km par jour pour mettre mon enfant dans une école issue d'un regroupement d'écoles ? Il va être fatigué, il va passer sa vie dans la voiture et moi avec. Pourquoi ne pas faire un petit établissement de proximité ? Et c'est plus rationnel, c'est plus écologique, c'est plus tout ce qu'on veut. Et donc, il y a aussi toutes ces générations d'écoles qui correspondent à un peu à une forme de localisme et d'approche plus responsable, plus écologique aussi. Et il y a un certain nombre de verrous qui ont sauté, vous voyez, à l'occasion de ce confinement. Des gens ont essayé l'école à la maison, de facto, même si ce n'est pas la vraie école à la maison, parce qu'ils étaient quand même un peu entravés par les directives complexes et changeantes qui émanaient des professeurs et du ministère. Enfin, ils ont quand même essayé ça. Et certains se sont dit, mais ce serait quand même beaucoup plus simple de s'unir à quelques personnes, de mettre des moyens en commun et d'ouvrir une petite école à 2 classes multiniveaux dans notre campagne, plutôt que tous prendre nos voitures, aller dans les 4 coins, avoir des enfants fatigués dans des établissements anonymes où ils se sentent perdus. Il y a quelque chose de fou là-dedans. Et je crois que dans les années prochaines, nous verrons certainement les fruits de cette prise de conscience qui s'est opérée à la faveur de ce confinement.
Alors si j'ai bien compris, la Fondation Kairos n'est pas là seulement pour aider ces initiatives, mais aussi pour en recueillir le fruit et diffuser, repérer les bonnes idées et les diffuser dans l'ensemble de l'institution.
Alors, la Fondation Kairos a une ambition beaucoup plus importante que ça. La Fondation Kairos n'est pas exclusivement centrée sur le soutien des écoles indépendantes, hors contrat, privées, libres, enfin, comme on veut les nommer. Simplement, la forme la plus pure d'innovation, ce qui permet le plus de liberté, c'est cette forme-là en France. Donc, évidemment qu'on s'y intéresse tout particulièrement. Et évidemment qu'on s'intéresse tout particulièrement à soutenir ces écoles lorsqu'elles ont une préoccupation sociale et à la fois ambitieux sur le contenu culturel. Et à la fois, donc, avec ces trois caractéristiques, c'est-à-dire vouloir transmettre la culture française, préparer des enfants qui soient à l'aise et conscients des éléments structurants de la modernité, et troisième élément, faire en sorte que ces enfants aient une envie de prendre leurs responsabilités, qu'ils soient, bon c'est un petit peu un barbarisme dont je suis confuse, mais qu'ils soient entrepreneurs de leur vie, c'est-à-dire qu'ils aient envie de se prendre en main et de prendre des initiatives, de s'auto-éduquer quelque part, qu'ils sortent d'une sorte de passivité. Donc ça, c'est l'état d'esprit global de la Fondation. Ça peut se faire à travers le soutien à des écoles indépendantes, ça peut se faire à travers des soutiens d'autres initiatives, et notamment des initiatives qui peuvent être à l'étranger. En fait, l'idée, c'est vraiment de chercher des modalités innovantes pour transmettre cette envie d'exister, de prendre sa part dans l'existence, et le fait de recevoir la culture classique française.
Mais vous voulez... vous voulez, je pense, repérer les réussites et les clés des réussites pour ensuite... les répercuter, les mettre à disposition, les porter dans le débat public, de façon à ce que d'autres s'en emparent.
C'est ça. Alors, il y a une dimension financière qu'on a déjà abordée dans cette émission. Il y a une dimension d'accessibilité sociale que nous n'avons pas encore abordée, c'est-à-dire que nous avons mis en place un dispositif de bourse pour que des bienfaiteurs fassent des dons à la Fondation Kairos en disant « je veux pouvoir soutenir l'accès des enfants à des bonnes écoles libres ». Donc dans ce cas, ils indiquent au moment de leur don, ils peuvent même indiquer si on veut le type d'école qu'ils voudraient soutenir. Et ça permet donc à des enfants méritants, d'origine modeste, de pouvoir accéder à de bonnes écoles. Parce que notre intuition, qui est assez simple, c'est de dire que les nouvelles modalités aujourd'hui de la justice, de la méritocratie scolaire, mais aussi, si on veut, une certaine forme d'égalité, des chances, pour reprendre le vocabulaire malheureusement assez galvaudé, c'est de pouvoir accéder à une école qui vous convienne, une école de qualité. Lorsque vous êtes dans une banlieue quelconque, ou dans une ville quelconque, et qu'il se trouve que vous êtes scolarisé, vous êtes sectorisé sur un établissement qui n'est pas bon, ou bien que vous avez tout simplement un mauvais professeur. Le service public, il a beau être gratuit, il a beau être à côté, il va vous conduire à quelque chose qui ne sera pas de qualité pour votre enfant. Donc, il faut dans ces cas-là, de manière extrêmement pragmatique, que vous puissiez extraire votre enfant de cette situation d'échec pour pouvoir lui proposer un autre destin. Et c'est ça qu'on essaie de faire. On essaie de faire en sorte, à travers ce système de bourse, de rendre possible une démocratisation de l'accès à de bonnes écoles libres. Il n'y a pas que les écoles libres qui font ça. Vous voyez, dans le colloque que nous allons organiser le 14 octobre, il y aura notamment le premier directeur des internats de la réussite de Sourdin. Eh bien, c'était tout à fait cette même logique. Il y aura notamment une ancienne élève qui est actuellement élève à Sciences Po, qui a fait 7 ans à l'internat de Sourdin. Elle était dans une banlieue qui est difficile, hein, pour parler simplement. Et sa mère s'est dit, si tu vas dans l'établissement de secteur, tu n'auras pas d'avenir. Donc, il faut t'extraire de là. Et elle a cherché et elle a trouvé cet internat de la réussite. Et cette jeune femme tout à fait douée a travaillé pendant 7 ans. Et maintenant, elle fait de bonnes études, elle fait des stages et elle fait un parcours sans aucune difficulté. Mais pour ça, il a fallu lui permettre de rentrer dans un établissement qui avait une discipline, qui cherchait à transmettre vraiment la culture, qui donnait les éléments de compréhension sans se cacher derrière son petit doigt de ce qu'est notre pays. En l'occurrence, c'était un établissement tout à fait public. Mais c'est souvent aussi des établissements privés. Donc ça, c'est le deuxième pilier, c'est le pilier des bourses. Le troisième pilier, c'est un pilier, et ça rejoint ce que vous disiez, qui est un pilier tout à fait intellectuel, qui est de faire des colloques, des séminaires, des conférences, des publications, pour repérer ce qui est intéressant pour les gens qui veulent utiliser leur liberté d'enseignement, leur liberté d'éducation, et ce qui mérite d'être pris en compte, soit parce que c'est un défi qui est difficile à relever, je pense par exemple à la question du numérique. Là aussi, hein, il y a la querelle des anciens et des modernes, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont horriblement contre, il y a des questions d'argent là-dedans, il y a des questions de mode. Bon, on a du mal.
C'est normal tout ça d'ailleurs.
C'est tout à fait normal, bien sûr. Mais ces sujets-là doivent être traités sérieusement et de manière dépassionnée et constructive. Ce qui est certain, c'est que la France est très en retard sur ce sujet. C'est pas pour autant qu'en achetant des milliers de tablettes, on résout le problème. Mais on est très en retard sur ce sujet, on ne maîtrise pas ce sujet, et les enfants aujourd'hui sont livrés à eux-mêmes, avec ou sans notre consentement, et l'école ne tire pas vraiment profit des potentialités du numérique. Donc ça, c'est la question des colloques. Et le dernier point, c'est un point qui est lié au désir de mettre en valeur des personnalités remarquables du milieu éducatif, et à commencer naturellement par les professeurs. C'est bien un paradoxe que notre situation française, où finalement nous déplorons la perte d'intérêt pour le métier d'enseignant, horriblement, enfin en tout cas de professeur, de maître, d'instituteur, et dans le même temps, nous ne le défendons pas au niveau financier, c'est-à-dire qu'il est très mal payé. Nous ne le défendons pas non plus au niveau statutaire, au niveau du respect qui lui est dû, dans la mesure où dans la plupart des établissements, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas d'autorité, et le professeur, par exemple, ne peut pas toujours faire cours parce que le contexte global de discipline s'est effondré. Et on ne le met jamais à l'honneur. Vous n'avez pas des personnalités extrêmement célèbres ou mises à l'honneur ou ouvertement, révérées, à part certaines personnes qui, à un moment donné, font un livre qui vient une sorte d'effet d'édition. Je pense par exemple à Céline Alvarez, qui a donc fait un livre sur la méthode Montessori, son expérience en école publique en banlieue. Mais à part ça, vous n'avez pas de professeurs qui sont mis à l'honneur et proposés un peu en modèle pour les autres.
Oui,
et
je pense que... Puis généralement, ensuite, ils deviennent journalistes ou éditorialistes. Donc...
En général, ils quittent le métier. C'est ça. Et je crois que c'est important de mettre à l'honneur, sans forcément leur faire tourner la tête, mais des professeurs qui sont reconnus comme des professeurs d'exception et qui font bien leur métier et qui pourraient donc faire école, prendre des gens en formation, passer le flambeau. Ce qui nous met en lien avec certaines de nos activités à travers nos partenaires, notamment Créer son école, qui est notre partenaire pour former les professeurs, les directeurs, les créateurs d'école. C'est bien d'avoir des idées, mais il arrive un moment où il faut former. Voilà. Donc voilà un peu le périmètre de nos actions et de ce que nous voulons faire dans le cadre de la Fondation Kairos, sachant que nous pouvons aussi accueillir des projets de bienfaiteurs ou des projets de personnalités plus ou moins connues qui ont une vision éducative centrée et compatible, compatible avec notre approche et pour laquelle on pourrait trouver une manière de collaborer. Imaginons par exemple qu'on rencontre un bienfaiteur qui se désole du fait que la formation aujourd'hui manuelle la formation au métier est dévalorisée et que lorsque on va dans un établissement professionnel, en général, on n'a plus du tout la possibilité d'avoir une transmission culturelle, littéraire, historique, de culture générale conséquente. Imagine qu'on ait un bienfaiteur qui décide de doter un prix ou en tout cas donner des fonds pour essayer de travailler là-dessus, améliorer et soutenir des écoles qui seraient différentes. C'est tout à fait dans notre perspective, c'est tout à fait conforme à nos desiderata et donc évidemment que nous allons travailler ensemble sur une modalité pratique d'agir avec lui.
Oui, ils ont une conscience claire des objectifs, mais dans les modalités d'application et la façon de cheminer vers cet objectif, vous gardez une entière souplesse et le pragmatisme qui caractérise une organisation qui regarde ce qui se passe.
C'est ça.
Avant tout, eh bien, écoutez, c'est parfait. Je crois que nous avons fait le tour de la question. Il faudrait toutefois peut-être préciser...
Pour le colloque, peut-être.
Le colloque, exactement, parce que le colloque va...
Arriver très
la
bientôt.
La date approche.
Tout à fait. Donc, notre premier colloque a lieu le 14 octobre à l'Institut de France. Il a pour intitulé « Une école libre et ambitieuse, meilleur antidote au séparatisme », pour reprendre donc un terme
d'actualité,
puisque dans un mois après, en novembre, sera débattue au Parlement la loi sur le séparatisme. Alors, quelle est l'approche ? L'approche est assez simple, et c'est simplement l'idée de voir ce que l'école a comme responsabilité pour prévenir le séparatisme, pour s'y opposer, et quel est l'état de la situation, bien sûr, et ce qu'elle doit faire, ce qu'elle peut faire pour faire en sorte que les jeunes ne soient pas attentifs, ne soient pas disponibles par leur cœur, par leur esprit, par tous les moyens, aux sirènes séparatistes. Donc, par séparatisme, on désigne très clairement la question avant tout de l'islam politique, bien sûr, et de la séduction que ça peut opérer sur de jeunes enfants. Et nous avons donc un programme qui est à découvrir sur le site de la Fondation Kairos, donc fondationkairoseducation.org, avec les interventions notamment de Jean-Pierre Aubin, qui vient de sortir un livre très important sur sur l'islamisme.
Et le livre, c'est « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école » aux éditions Herman.
Alors, c'est important, cette intervention est très importante parce que c'est lui qui avait écrit le fameux rapport Aubin en 2004, et que je me semble-t-il qui a été déjà très clair sur la question. C'est un inspecteur général honoraire de l'éducation nationale, il ne mâche pas ses mots, et il décrit de manière très circonstanciée et précise, d'ailleurs c'est son tempérament, la situation concrète de l'école publique aux prises avec les réalités de l'islam politique en son sein. Il ne s'agit pas de parler des écoles hors contrat, qui sont des confettis dans le paysage. Il s'agit de parler de phénomènes à l'œuvre au sein de l'école publique. Et parmi les autres intervenants, bon, il y en a beaucoup puisque la journée est assez dense, mais il y a notamment un certain nombre aussi de membres de l'Institut. Donc il y a Jean-Robert Pitt,
Chantal
Delsol, Franck Ferrand. Alors je vous laisse lire peut-être la liste.
Oui, et puis c'est un plateau avec beaucoup d'autres,
oui,
beaucoup d'autres personnes. Hein. Je cite Souad Ayada, présidente du Conseil supérieur des programmes, et notamment Cécile Ladjali, agrégée de lettres, écrivain, dramaturge, et également l'ancienne adjointe au maire, non, l'adjointe au maire d'Evry, pardon. Autant dire que ce sont des personnes d'horizons différents, mais qui ont toute une expérience qui permettra d'appréhender ce sujet qui est brûlant et vaste, mais mérite d'être traité avec beaucoup de sérénité.
Quoi. Oui, c'est ça. Il y a d'autres noms aussi, hein, Mathieu Bock-Côté, Kevin Boucaud-Victoire. Donc il y a des horizons pour venir à ce colloque, des gens d'horizons politiques extrêmement différents, d'expériences variées, c'est-à-dire il y a parfois des gens de terrain, comme par exemple le premier directeur de l'internat d'excellence de Sourdin, qui était des modalités intéressantes, hein, publiques, de faire des formations conséquentes pour les jeunes issus des banlieues. Il y a des députés, des maires de terrain, qui ne mâchent pas leurs mots, qui décrivent au-delà de leurs différences droite-gauche la réalité des choses. Il y a des philosophes, parce qu'il faut poser les concepts clairement, des historiens, qui vont montrer notamment comment la question de la transmission de l'histoire et de la géographie est cruciale pour ensuite lutter contre la tentation communautariste. Voilà, donc je pense que la journée sera très dense et les formats permettront de ne pas se lasser et de laisser du temps aussi aux auditeurs, enfin ceux qui viendront écouter. Et nous rediffuserons aussi par vidéo le débat, puisque avec les problèmes liés à
la crise sanitaire qui se poursuit.
Voilà, crise sanitaire, nous serons obligés de réduire le nombre de présents, malheureusement, dans la salle, la magnifique salle donc de l'Institut de France.
Écoutez, je pense que nous avons cette fois parfaitement fait le tour, annoncé les premiers travaux, et j'incite nos auditeurs à poursuivre leurs réflexions et à suivre vos activités.
Peut-être un tout petit dernier mot, si vous m'autorisez. Oui. Donc, la Fondation Kairos travaille en particulier, même si elle a d'autres partenaires, elle travaille en particulier avec deux partenaires. Créer son école, qui est donc un partenaire qui avant tout conseille les créateurs et directeurs d'école et propose des formations de qualité aux professeurs, directeurs et créateurs d'école, mais aussi Éduque France, qui est un site internet, éduquefrance.org, qui est important puisque c'est un lieu où vous allez pouvoir trouver des informations sur tout ce qui se passe d'intéressant en matière d'éducation en France et dans le monde, et qui pourra nourrir votre réflexion avec une grande diversité d'approches, puisque la devise de ce site, ça s'appelle penser l'école à 360 degrés. C'est dirigé par une jeune normalienne, Axelle Girard, qui a vécu dans plein de pays différents et donc est tout à fait capable de trouver des sources d'inspiration en Asie, en Amérique, un peu partout. Et je crois que c'est quelque chose qui nous manque, nous, souvent les Français, c'est que nous avons quand même tendance à être très franco-français dans nos approches. Or, ces enjeux de transmission culturelle, ces enjeux, vous voyez, de passation de notre civilisation, elles sont naturellement tout à fait partagées ailleurs. Je pense par exemple à cette tradition japonaise, en début d'année scolaire, vous avez les professeurs qui prennent leur classe et qui font le tour des monuments historiques en voyage scolaire initiatique, entre guillemets, initial initiatique, avec leurs élèves. Voilà une tradition formidable. Vous imaginez ce que ça change en termes de transmission du patrimoine de commencer une année comme ça ? Voilà une idée qui pourrait nous inspirer.
Qui prouve que, au-delà de la profondeur historique, vous nous proposez aussi de l'amplitude géographique.
C'est ça.
Et tout ce trésor est disponible à travers le portail initial, qui est une sorte de hub, si j'ai bien compris. Et c'est donc fondationkairoseducation.org, tout attaché. Et bien sûr, nous mettrons les coordonnées sur le site internet des Canal Academy. Merci beaucoup, madame.
Merci beaucoup, Christophe Blanc. Thank you.